Dieu vous bénisse. Frère Giancarlo. Voilà, ça va commencer. Voilà, comme d'habitude, le matin, il y a des gens devant nous sur la route, le PC ne marche pas, bon, c'est souvent comme ça. Mais, quoi qu'il en soit, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous allons nous lever et nous allons présenter cette assemblée au Seigneur. Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, nous voulons te remercier de nous avoir donné ce jour dans lequel vraiment ton peuple, cette petite assemblée dont nous faisons partie, nous pouvons te louer. Que tu puisses toi-même guider toutes choses. Être à travers ces bouches, ces frères, ces sœurs, à travers les frères qui apporteront quelque chose, qu'ils puissent apporter ta parole et être guidés, conduits par ton esprit. Nous te remercions, Seigneur. Malgré les adversités, tout ce que l'ennemi peut faire, mais toi, tu nous as apporté ici, nous te remercions, Seigneur, pour cela. Et maintenant, nous voulons te prier pour les absents, ceux qui ne sont pas parmi nous, frère Franco, fait que tu puisses prendre soin de lui pour leur donner, l'utiliser pour leur donner la consolation et les enseignements. Et pour chacun d'entre nous, que ta bénédiction accompagne chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Merci aussi pour les frères qui sont reliés. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te louons. Amen. Amen. Il y a un requête de prière pour Carlos, de langue espagnole. Nous allons le faire maintenant. Nous allons nous lever pour prier. Pour cette personne. Seigneur, nous ne savons pas qui est cette personne. Mais toi, tu le sais. Avant même qu'on ait écrit ce petit feuillet. Pour cela, pour cette personne qui a un problème de cœur, à qui a demandé la prière. Seigneur, à travers ton Fils, afin que vraiment, toi, notre Seigneur, que tu puisses intercéder. Vraiment, donne la guérison. Donne-lui ce qui est nécessaire. Parce que Seigneur, tu l'as dit, là où deux ou trois se réunissent en ton nom et qu'ils demandent quelque chose selon ta volonté, tu l'accorderas. Et vraiment, d'un seul esprit, nous te demandons, Seigneur, que cette personne, ce Carlos, puisse vraiment trouver la santé et la guérison auprès de toi et qu'il s'approche de toi. Tu le connais, mais qu'il puisse même venir ici pour te louer et te remercier pour ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Nous te remercions, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions pour ces choses aussi. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que ce qu'on a fait maintenant, prier pour une personne, c'est aussi conduit par la foi. Et c'est justement pas sur la foi que je voulais dire quelque chose aujourd'hui. Déjà mercredi, je voulais l'apporter, mais je vais le faire maintenant. J'en ai un peu parlé aussi mercredi. Que je voudrais dire. On va commencer à le lire dans Hébreux 11. Hébreux 11. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Et puis il continue. Nous connaissons ce passage. Et ce que justement. Ce qui est venu de mes pensées, c'est la foi et l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ou bien la démonstration. Voilà, tout ce mouvement qui a commencé, ça a commencé dans mon cœur, hein. Ça a commencé il y a quelques jours, à mon travail. Il y a un open space, donc c'est une grande salle ouverte. Alors, vous savez, il y a des collègues qui prennent des téléphones, qui commencent à crier alors que moi je travaille, vous voyez, ça ne va pas. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de crier comme on marchait. Et une confusion générale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets mon casque, je mets plutôt des cortiques ou quoi que ce soit, et je travaille comme ça. Et il s'est passé que j'ai entendu quelque chose, de dire quelque chose. Et regarder une petite vidéo. Alors j'ai dit, j'aimerais bien voir ça à midi, calmement. Et c'est un petit film que quand Josué est arrivé avec le peuple d'Israël sur les rives, sur de l'autre Jourdain. Alors j'ai commencé à regarder ça calmement à midi. Et j'ai regardé. Je dois dire que le film était bien fait. Et on voit Josué. Voilà, de la hauteur, qui invoque le Seigneur depuis les montagnes, qui invoque avec joie. Et ensuite, on va lire ce passage après. Pour pouvoir être en position avec la Bible, on va prendre Josué 3. Josué chapitre 3. Et donc je disais qu'il y avait justement Josué qui, en invoquant le Seigneur, il a ensuite donné un ordre aux Lévites de façon à ce qu'ils fassent ce qu'ils devaient faire. Voilà. Josué 3. La belle chose. Mais qui, celui qui a fait ce film, je ne sais pas c'est qui, mais il a vraiment saisi le sens. Il a vraiment saisi le sens du mouvement spirituel qu'il devait y avoir à ce moment-là. Et les Lévites, qui prenaient l'arche sur les épaules, et qui se disent, allez, on y va. Ils regardent Josué. Et le peuple reste là, émerveillé devant l'arche, devant cette présence, de la conscience qu'il y avait. Et puis il y avait encore d'autres belles images. On voit justement le peuple, avec les enfants, qui indique, qui montre l'arche. Donc il y avait ces choses-là. Alors, ce qui m'a fait réfléchir, c'était que quand j'ai vu le fait que le Jourdain s'est ouvert, les gens étaient émus. Et qu'est-ce qui a fait que je sois ému en voyant cela? Je sais ce qu'il y avait derrière, parce que c'était biblique. Mais qu'est-ce qui m'a touché le cœur? C'est le fait de croire que cette chose, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, imaginons que nous soyons là, que nous ayons été là. Chacun d'entre nous aurait explosé de joie, voyant le doigt de Dieu à l'œuvre. Et ça m'a fait plaisir parce que, alors, en voyant ces choses, en lisant ces choses, parce que nous savons, mais le voir figuré et à la télévision, c'est autre chose. C'est comme si on l'avait vécu nous-mêmes. C'est vrai, en lisant la parole, on peut s'identifier à ces choses-là, bien sûr. Et c'était comme ça. Et Dieu l'a permis comme ça. Et ça m'a fait comprendre que si j'ai pu croire, et je la crois, et je crois que chacun d'entre nous croit que Dieu a fait ces choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi. Peut-être que mon collègue, lui, il a vu, il s'en fiche. On ne sait pas comment les gens du monde raisonnent. Mais cette chose-là m'a donné la force aussi, parce que c'était beau. Parce que beaucoup de versets sont venus dans mon esprit. C'est une belle chose. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Déjà, les Hébreux avaient un souvenir d'avant, de la traversée de la mer Rouge. Mais là, c'était une chose différente. Parce que là, Josué seulement lui avait, disons, à ce moment-là, l'autorité, disons, comment dire, il avait ce contact direct avec Dieu. Donc c'est à travers lui que directement, avec les Égyptiens là derrière eux. Donc imaginons d'être comme ça, à leur place. Je pense que personne parmi le peuple hébreu ne s'attendait à une chose pareille. Avec Moïse. Voilà, Moïse a ouvert les eaux, ça c'est une chose, ça s'est fait comme ça. Mais là au contraire, là, c'était différent. Parce que déjà, nous savions que Dieu pouvait faire ces choses-là. Mais là, ils ont pu entrer. Lisons cela. Lisons dans Josué. À partir de. Donc, chapitre 3, à partir. Pardon, chapitre 3, à partir du premier verset. Et Josué se leva de bonne heure, le matin. Et ils partirent de Sittim et vinrent jusqu'au Jourdain. Lui et tous les fils d'Israël. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Et il arriva au bout de 3 jours que les officiers passèrent au milieu du camp. Et ils commandèrent au peuple, disant, aussitôt que vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites qui les portent, vous partirez de là où vous êtes, et vous marcherez auprès d'elle. Seulement, il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2 000 coudées. N'en approchez pas afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez pas marché par ce chemin ci-devant. Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. Et Josué parla au sacrificateur, disant, chargez sur vous l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Et ils chargèrent sur l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Et toi, commande au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance, disant, lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et Josué dit aux fils d'Israël, approchez ici, approchez d'ici, et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Et Josué dit, à ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera certainement devant vous le Cananéen et le Héthien et le Hévien et le Phérézien et le Guirgasien et l'Amoréen et le Jébusien. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Et maintenant, prenez 12 hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Il y a toute cette préparation déjà ici, cette assurance que Dieu avait donné parce qu'ils avaient donné foi à Josué pour faire une chose merveilleuse, de grande, une grande chose. Et il arrivera que lorsque les plantes des pieds des sacrificateurs, verset 13, qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre se poseront dans l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et il arrivera que lorsque le peuple partit de toutes ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Et comme ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau, or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un morceau très loin, près d'Adam, ville qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient à la mer de la plaine, la mer salée, s'écoulèrent complètement. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Et tout Israël passa à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donc ici, nous aussi, ça a été dit que nous ferons, que nous traverserons le Jourdain pour arriver à notre rive. Donc on peut parler de beaucoup de choses. Mais là, je voudrais te dire que combien de fois il faut traverser le Jourdain, c'est-à-dire on doit avoir une épreuve au-delà de laquelle il faut passer. Et ici, il y a la foi, la conviction, que même que seulement en mettant, en touchant l'eau, on avait la foi que ce serait ouvert, que l'eau se diviserait. Donc, à la différence d'avant avec la mer Rouge, Dieu a montré sa puissance. Ici, la différence, c'est qu'il y a une préparation. Et cette préparation, on l'a reçue, on continue de la recevoir. On a reçu tous les mystères, la parole de Dieu, les révélations, etc. Et toutes ces choses sont en train de nous conduire là-dedans. Justement, je crois, justement, que nous devons arriver, souvent, on y arrive, à avoir les pieds immergés dans quelque chose, et nous devons traverser la chose. Et savoir que par la foi, ces eaux-là vont s'ouvrir. Néanmoins, il faut accepter l'épreuve. L'épreuve arrive. On commence peut-être des fois à se poser la question, mais il y a de l'eau là, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que cette épreuve-là a déjà été mise. Si Dieu l'a concédée, je vais la traverser. Même si c'est une petite chose. Comme je l'ai dit mercredi, la croissance dans la foi, donc je parle de mon expérience, je pense que c'est commun à chacun d'entre nous, petit ou grand, l'un ou l'autre, c'est fait toujours de petites expériences, mises toutes ensemble. Donc petit à petit, alors que je venais là mercredi, ici mercredi, Stéphane était parti faire une balade, mais il était très ponctuel. Il est revenu, il est ponctuel. À 7h30, il n'était pas encore arrivé. Alors je me posais la question. La première préoccupation, c'est quoi? Ah, voilà, on ne sait pas où il est. Et la pensée, il y a des pensées qui viennent de votre tête. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, je vais te servir, voilà. Alors, cette chose-là est venue dans ma tête, dans mon esprit. Et là, c'est comme si, spirituellement, je suis entré avec mes pieds dans le Jourdain. Mais sûrement que Stéphane sera rentré à la maison, il n'y a rien qui s'est passé. Seigneur, faut qu'il soit bien rentré à la maison. Alors, il m'a écrit simplement pour dire qu'il y avait un petit problème avec sa bicyclette. Donc c'est une toute petite chose, mais voilà que, voilà, si on ne la met pas en pratique, si on n'expérimente pas ce que le Seigneur nous donne, même si tu entres dans une épreuve, comme c'est là dans la Bible, le fleuve était plein d'eau. Bon, ça peut sembler impossible. Selon l'esprit humain, ça semble impossible à s'ouvrir. Mais vraiment, si la foi se meut, elle nous fait aller au-delà de notre raisonnement humain. Parfois, le raisonnement humain nous dit « Ah ben, il y a des choses qui ne peuvent pas subsister, qui ne peuvent pas se passer. » Mais Dieu renverse toutes ces choses et nous fait toucher avec nos mains ces choses-là, comme on l'a dit, comme on l'a lu dans Hébreu, la foi et l'assurance des choses qu'on espère. Alors ça m'a plu, vraiment, de pouvoir voir ces choses-là. De comment, même quand on commence un travail, une épreuve, la fatigue, traverser le Jourdain, sachant que de l'autre côté, il y a la terre promise, donc la libération, beaucoup de choses. Et sachant que l'arche de l'Alliance, la parole de Dieu, son esprit est avec nous, et qu'il est devant nous, c'est à travers ça, à travers ce pacte, cette alliance, que par la foi nous pouvons vraiment traverser les épreuves, et même la mort. Donc passer une nouvelle vie, à une nouvelle vie, etc. Mais vraiment, ce sont des petites choses, mais je crois que c'est ces petites choses, petit à petit, qui nous portent à la maturité dans la foi. Parce que le Seigneur l'a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et ainsi, en cherchant à plaire au Seigneur, de s'efforcer à toujours mettre à côté les relations, les aspects logiques de la chose. Parce que c'est là, la chose est là. En nous, il n'y a pas la force de croire la parole de Dieu, de croire que Dieu peut faire des merveilles. Mais quand j'ai fait ces choses-là, j'ai été ému parce qu'il y avait la puissance de Dieu. C'est un film, mais quand même, ce qui s'est passé dans le passé, c'est vraiment Dieu qui l'a fait, et je le crois. Je crois encore beaucoup d'autres choses qui sont écrites dans la Bible et qui sont folies pour le monde, disait Paul. C'est pour ça que le Seigneur renforce toujours plus notre foi. Une grande belle chose ici, qu'on lit ici. Comme le peuple, comme les chefs étaient unis, quand il y avait ce désir unique d'aller dans cette direction-là, et vraiment que le Seigneur puisse bénir toutes les assemblées dans l'épouse de Christ, ce désir d'avoir un esprit unique, un seul accord, pour vraiment arriver à la manifestation de la puissance de Dieu, du monde, etc. Que le monde voit la manifestation et que nous puissions aller tous ensemble au-delà du Jourdain. Voilà, je m'arrête ici. S'il y a un frère qui est libre de venir apporter la parole, Antonio, Francesco, Samuel, n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Carmelo, que Dieu nous bénisse. Avant tout, je dois dire que j'ai fait la nuit, j'ai travaillé la nuit cette semaine. Et les années passent. Et ça, c'est ma dernière nuit de travail. Parce qu'après, encore 2 semaines et puis je serai en congé. Et en faisant la nuit, comme ça, ça devient de plus en plus vraiment difficile. Si je devais encore faire de nuit, je pense que ce sera fini pour moi. Je me souviens que j'avais un collègue, donc c'est quelqu'un qui est à Saint-Malo-Bardo, à Varolo-Pombia, il était là, et il me disait qu'il avait 60 ans à l'époque, plus ou moins, et il voulait venir de mon côté. Parce que lui, parce qu'il disait, oh, j'en peux plus faire la nuit. Et là, maintenant, je vois vraiment que hier, j'étais vraiment, J'arrive vraiment à mes limites, je n'en peux plus. C'est comme si tu étais presque sous. Donc on est sorti même 1 heure pour faire les courses, mais tout ce que je voulais, c'était aller dans mon lit. C'est vrai que la nuit. Donc voilà, j'ai dû prendre une petite pilule pour dormir après. Et même pendant la nuit, je dors peu. Donc vraiment, j'avais lu quelque chose, mais disons que je n'étais pas dans la juste situation pour aller sur le pupitre. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Donc j'avais marqué certains versets. Alors, pendant qu'il parlait, frère Gianfranco, donc il y a quelque chose qui m'avait touché. C'est le livre de Samuel, livre de Samuel, qui pour moi ça m'a toujours été un livre très cher. Quand je vois la vie de David, j'ai vu que vraiment c'est un homme. David, un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que moi j'aimerais être. Je voudrais vraiment être comme lui, juste, saint, humble. C'est un vrai homme de Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire un homme selon mon cœur. Et pour me rapprocher de. Pour me relier à ce que le frère Gianfranco a dit, je vais lire dans 1 Samuel. Je me souviens de ces choses-là. Donc je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Même quand on était dans la montagne, je crois que j'ai encore lu cela. Ah, Samuel 13. Ça, on avait lu ça aussi pendant qu'on était en vacances. Qui se relie avec le frère Gianfranco parce que, comme il le disait, arriver à avoir les pieds dans l'eau et voir si vraiment la foi, si vraiment il y a la foi ou mon fils dit que moi je vais souvent dans la panique, je panique souvent, mais si je dis quelque chose, lui dit souvent tu prends la panique, mais c'est pas comme ça parce que parfois quelqu'un dit des choses justes afin qu'on puisse régler les choses, mais même les choses bibliquement. Mais quoi que ce soit qu'on dit, on dirait qu'il y a la panique. Mais ici, il y a un homme qui était dans la panique. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 10 d'abord. Saoul. Samuel donne des directives à Saoul. Il dit, au verset 7. Donc 1 Samuel 10, verset 7. Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu feras ce qui se présentera à toi, car Dieu est avec toi. Donc si un Samuel me dit Dieu est avec toi, alors là, je me sens fort, je me sens de l'assurance. Mais là, on continue. Et voici, je descendrai. Tu descendras devant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et sacrifier des sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne vers toi et je te ferai savoir ce que tu devras faire. Et 13, chapitre 13, 8. Donc, Samuel lui dit d'attendre 7 jours. Et pour lui dire ce qu'il fallait faire. Et maintenant, ici, il y a une petite bataille là qui devait affronter. Et dans 1 Samuel 13, 8, Et Saül attendit 7 jours, jusqu'au temps assigné par Samuel. Et Samuel ne venait point à Gilgal, et le peuple se dispersait d'auprès de Saül. Et Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices de prospérité. » Et il offrit l'Holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici que Samuel vint. Et Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Et Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Et Saül dit, « Parce que je voyais que le peuple se dispersait d'auprès de moi, et que tu ne venais pas au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit, « Maintenant, les Philistins descendront contre moi à Gilgal, et je n'ai pas supplié l'Éternel. » Et je me suis fait violence, et j'ai offert à l'Holocauste. Et Samuel dit à Saül, « Tu as agi follement. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel ton Dieu, qu'il t'avait ordonné. Car maintenant l'Éternel aurait établi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne subsistera pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple, car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc je me suis souvenu de ce verset pendant que le frère parlait, parce que j'avais lu encore ces choses. Un homme selon le cœur de Dieu. Et ici, pratiquement, c'est un peu ce que frère Jean-François dit. Cet homme-là se trouvait avec les pieds dans l'eau, selon l'expression du frère Jean-François. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Samuel lui avait dit, « Le Seigneur est avec toi. » Donc, verset 7, 17. « Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu feras ce qui se présente avec toi, car Dieu est avec toi. » Et alors, comme le peuple commençait à se disperser parce qu'ils avaient peur, ils avaient un peu les pieds dans l'eau, comme ça, et ils ne savaient pas quoi faire. Et alors, ils ont commencé à se disperser. Et voilà. Là, il y a vraiment... Il fallait vraiment mettre en acte la foi et croire tout ce que Samuel avait dit. Parce qu'ici, Samuel avait obéi. Comme l'ennemi fait des fois, il te fait croire une partie de la parole et puis la seconde partie. Donc c'est vrai, il avait attendu 7 jours, comme Samuel l'avait dit. Mais arrivé à un certain point qu'il n'arrive plus à savoir quoi faire. Et je crois que la même chose, je crois, hein, comme Fred Jeanfra, qu'on disait, que parfois, ce que nous vivons, nous, c'est quand on est pris par une difficulté, je pense aussi que parfois, quand il y a par exemple des choses, je pense par exemple au travail du frère Samuel, notre frère Samuel, on prie, mais ça ne vient pas. Mais je crois cela. La parole de Dieu dit, je n'ai jamais vu le juste quémander son pain. Et je crois cela. Et je crois que Samuel est un garçon qui aime Dieu. Et ainsi, je suis sûr que Dieu prendra soin de chaque chose. Ce n'est pas, nous on ne sait pas la volonté de Dieu, mais je crois que Dieu est dans notre vie. Je crois que nous avons choisi la voie juste. C'est pas, nous on n'est pas parfait, mais je crois que si nous aimons le Seigneur, il prendra soin de chaque chose. Voilà pourquoi je crois simplement que nous avons les pieds dans l'eau, mais le Seigneur nous a donné des promesses. Comme là, il se trouvait devant la mer Rouge. Et là, il y a une action. Ce que nous devons faire, c'est d'obéir simplement à la parole de Dieu et attendre. Nous ne savons pas ce que Dieu a réservé pour nous. Mais je crois une chose, que malgré nos difficultés, malgré nos incapacités, malgré, on peut dire, toutes sortes de paroles, parce que elles sont toutes correctes, malgré notre désobéissance ou malgré quoi que ce soit, il est tenu à respecter ses promesses. Parce que nous, encore aujourd'hui, nous sommes ici et nous croyons que nous l'aimons. Nous l'aimons et c'est à cause de cela. Voilà pourquoi. Moi, je pense souvent à David. Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a aussi fait des mauvaises choses. Mais Dieu a, même après tout ce qu'il a fait, il a pris soin de chaque chose. J'ai dit l'autre jour, il fait les choses d'une manière particulière, spéciale. De la racine de David est né Jésus-Christ. Et même cela, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir aucun homme juste sinon le Seigneur Jésus-Christ. Frère Pino hier m'a appelé et il m'a demandé à faire une petite chose pour lui, pour l'aider un peu. Donc je dormais le matin et l'après-midi. J'étais un peu fatigué à cause de la nuit. Je remercie Dieu parce qu'il n'y a plus de nuit, parce que sinon... Hier, je me suis pesé hier, après dîner, parce que quand on fait la nuit, on ne se rend pas compte. Mais il y a du stress, il y a... Ça n'a pas été une belle semaine. Parce que je crois que c'est une des pires semaines de toutes mes nuits. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et même la nuit, il faut chercher à résoudre des problèmes. Bon. On est... Et je me suis pesé. Et je crois même avoir maigri de 2 ou 3 kilos en une semaine. C'est vraiment difficile. Mais, je répète, le Seigneur fait des choses de manière juste, correcte. Quoi qu'il en soit, frère Pino, hier, nous sommes écoutés, et il a dit, tu veux bien faire quelque chose pour moi, tu vas lire un verset. Parce que c'est pour l'église, c'est pour les frères. Alors, je vais lire dans Jude, les 2 premiers versets de l'épître de Jude. Juste avant l'Apocalypse. Les deux premiers versets, Jude. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père, et conservez en Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Frère Pino a souligné cela. Bien-aimés en Dieu le Père, et conservez en Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Nous sommes aimés et conservés, gardés par Jésus-Christ. Donc nous sommes vraiment quelque chose de particulier. Nous sommes aimés et protégés par la puissance qui a été manifestée sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes vraiment un peuple privilégié qui veut plaire au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre enseignement et comme exemple, afin qu'on puisse marcher comme ils ont marché. Ces grands hommes qui se sont faits petits, parce qu'ils savaient que la gloire va seulement à notre Seigneur. Les hommes qui ont donné leur vie, parce que, je me souviens, frère John disait ça souvent, ils ont donné leur vie afin que ça arrive à nous. Ainsi, nous voulons prendre exemple de toutes ces choses-là. Je voudrais aussi lire maintenant, dans Ésaïe, chapitre 66, Ésaïe 66. Donc je répète, je le dis. Donc je ne suis pas prédicateur, je n'ai pas tout préparé. J'ai pas peur. Donc je ne peux même pas remplacer. Mais je ferai franco, mais je dis ce que le Seigneur me met à cœur. Que Dieu bénisse ce que nous lisons. Donc comme Fred Jean Franco dit. Je voudrais moi d'abord être comme cela. Moi d'abord, je voudrais être comme le Seigneur me veut. Mais je crois que le Seigneur nous aime comme nous sommes. Ce que j'avais à cœur est cela justement. De mettre en évidence comment était cet homme qui était selon le cœur de Dieu. Un homme juste, un homme sage. La parole de Dieu nous enseignait que l'homme sage était Salomon. Mais David était un homme à part les choses qui sont écrites en ce qui concerne Salomon. Moi, je me souviens plus, ça c'est personnel, David, pour ce qu'il a fait en rapport avec le peuple de Dieu. Salomon, justement, a été l'homme le plus sage parce qu'il lui a été donné quelque chose de Dieu. Mais la même chose est pour David, un homme juste, sage. Il y a des choses que quand je les ai lues, ça m'est resté à cœur. Et je voudrais marcher. Je sais que c'est gros à dire, mais je crois que chacun d'entre nous aimerait être, voudrait être comme David, juste, saint. Et lisons cela, afin que la parole de Dieu marche, parle mieux. Ésaïe 66. À partir du premier verset, Ésaïe 66. Ainsi dit l'Éternel, les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez, et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit, et qui tremble à ma parole. Amen. Donc ici, la pensée que j'avais de David, la première chose, c'était l'humilité, la sagesse, la justice. Il y a un verset que j'ai lu hier. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Et j'ai trouvé des réponses. Voici sur qui je poserai mon regard, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Maintenant, je voudrais lire dans Actes des Apôtres 13. Actes 13, qui dit plus ou moins ce qu'on a déjà dit. Actes 13, 22. Actes 13, 22. Je répète, la parole de Dieu a été donnée pour notre enseignement. Et comme frère John disait, il a donné sa vie pour l'évangile et chaque chose qui a été donnée, qui a été écrite, c'est pour notre enseignement et notre exemple. Et nous savons que l'exemple, ça a été le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on lit ici, on va le lire, afin que nous puissions avoir un exemple qu'on doit suivre. Acte 13, 20. Et après ces choses, jusqu'à environ 450 ans, il leur donna des juges, jusqu'à Samuel le prophète. Et puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saoul, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin pendant 40 ans. Et l'ayant ôté, il leur suscita David pour roi, duquel aussi il dit en lui rendant témoignage, « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Amen. Donc, je répète ce qu'on a lu ici. David, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Maintenant, 1 Roi 15. 1 Roi chapitre 15. Pour mettre en évidence le péché. Cet homme selon le cœur de Dieu. 1 Roi 15. 5. Par 1 Roi 15, verset 5. Parce que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était détourné de rien de ce qu'il lui avait commandé tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Jusque-là. Donc, ça a été un homme juste aux yeux de Dieu en toutes choses, un homme selon le cœur de Dieu. Il ne s'est détourné de rien de ce qu'il avait commandé tous les jours de sa vie. Je voulais encore lire le psaume 51. Cet homme a fait, nous savons ce qu'il a fait. Maintenant, je le dis pour bien faire, pour nous rappeler. Pourquoi. Cet homme, un homme juste et saint, et ensuite on va dire quelque chose qui est resté dans mon esprit, mais il s'était chargé, il s'était sali d'un fait infamant qu'il a commencé à voir une soirée sur sa terrasse. Il a vu sur sa terrasse la femme d'un de ses soldats. La parole de Dieu dit que c'était un des soldats les plus valeureux de David. C'était un homme qui aimait David et l'armée de David de tout son cœur. Donc déjà, Jésus a enseigné celui qui aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis le péché dans son cœur. Et David a regardé cette femme et l'a convoitée. Et pas seulement ça, mais donc pas seulement, il s'est vraiment sali de tous les péchés. C'était le temps que la loi commençait à énoncer, selon les 10 commandements. Donc il l'a apporté à la maison. Alors, il a été au lit avec elle, donc encore un autre péché. Mais le pire, c'est qu'il a été menteur, parce qu'il a appelé son mari. Il a pris une excuse et il a cherché à le faire aller à la maison pour dire que ce fils, parce que la femme avait dit que le fils, bon, qu'elle est enceinte. Alors elle a convaincu cet homme à aller au lit avec sa femme afin qu'on puisse dire que le bébé était de lui. Mais cet homme était tellement valeureux, juste, attaché à cet homme lui-même qu'il a trahi, qu'il n'a pas fait, et pas seulement ça. Donc il a cherché de tous les moyens de le faire retourner à la maison pour le charger. Donc il a fait quelque chose de dégoûtant. C'est écrit un homme de bataille, un homme de guerre, de plus valeureux. Et il a cherché, David a cherché à le faire mourir. Et puis à la fin, c'était aussi la cause. Ça a été aussi un homicide parce qu'il a fait exprès. C'est comme s'il avait tué lui-même. Il a fait exprès de le faire aller en première ligne. Il a dit à son général, mets-le en première ligne et puis éloignez-vous de façon à ce que les autres soient seuls et que les autres le tuent. Et ça a été comme ça. Donc il s'est chargé de choses graves. Mais comme on l'a lu, il s'est rendu compte de rien. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est malgré tout, nous on pense maintenant, si quelqu'un s'était comporté comme ça, moi, la Spisa Carmelo, comment est-ce que j'aurais donné la réputation à cet homme-là? Moi, j'aurais dit, je veux rien avoir à faire avec cet homme-là. Moi, j'aurais dit comme ça, moi. Moi, un homme comme ça, pour moi, il n'a pas l'Esprit Saint. Pour moi, c'est pas un homme de Dieu. Moi, je me suis mis dans la peau de cet homme-là, ce temps-là. Mais la parole de Dieu dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il ne s'est écarté en rien, sinon de l'affaire du riz. Et ça, c'était au temps de la loi. Et je le dis, afin que nous-mêmes, parfois, comme parfois avec ce collègue-là qui me disait, moi, je n'en peux plus. Et tous les autres disaient, oh, c'est un fainéant. Parce qu'il disait qu'il n'en pouvait plus. Mais c'est pour dire que parfois, le jugement que nous pouvons donner sur une chose est faux. parce que nous devons le maintenir à la parole de Dieu. Et si Dieu a choisi cet homme David, qui, je répète, a commis, donc une personne vraiment qui se met en première ligne pour me défendre et mon peuple, moi je le fais. Moi je le prends son épouse et puis je lui dis, donc il n'avait rien, il n'avait qu'un agneau. Et on lui a dit, le jugement, cet homme est digne de mort, David avait dit. Et puis c'était cette sentence-là. Mais Dieu est miséricordieux. Parce que je crois, souvent je le dis, si c'était avec moi, comme si c'était avec nous, il n'y aurait personne. C'est vraiment que Dieu puisse nous donner un cœur comme Jésus-Christ. Transformer notre vie, notre esprit, nos pensées. Afin que nous puissions être, pas comme David, mais comme Jésus-Christ. Et souvent, nous, même moi, même hier soir, je disais à ma fille, il y a des choses, quand on est dans cette chair-là, qui est fatiguée, qui a beaucoup de pensées, beaucoup de problèmes, quand on est avec les pieds dans l'eau, si quelqu'un nous touche, alors là, attention, je peux me noyer. Mais alors là, je commence à me défendre. Et je me défends d'une manière erronée. Parce que vraiment, moi, je voudrais moi-même, moi d'abord, avoir le cœur qu'avait Jésus-Christ. Aimer le propre ennemi. Et si nous aimons nos ennemis, je dis souvent, je le dis d'abord parce que moi, donc je me connais, et je sais que je voudrais être comme ça. Donc si on devait aimer nos ennemis, hier j'ai lu un verset qui dit que, on va lire à la fin, qui dit que il faut prendre soin avant tout dans la maison de Dieu. Et ainsi je pensais que le sauver, on va même le lire aussi si vous voulez, le sauver avant ceux de la famille de Christ, parce que d'après, donc je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas, mais on va le lire. Mais ce que je voulais lire, c'est ceci, psaume 51, le psaume de repentance, ici j'ai un titre dans ma Bible, au chef de musique, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après qu'il fut entré vers Bathsheba. Donc après qu'il eut fait tout ce qu'il devait faire, Nathan va chez lui, et c'est l'histoire de l'agneau, qui dit qu'il y avait un homme qui avait un petit agneau, et quelqu'un l'a volé, etc. Use de grâce envers moi les paroles de David, ô Dieu. Selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions, lave-moi pleinement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi, contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. Afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas de devant ta face, ne me monte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. Délivre-moi de la coupe du sang, de la coulpe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont en esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Fais du bien de ta faveur à Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qu'on brûle tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Une prière d'un homme qui a reconnu ses fautes. Il avait les os brisés. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Un homme qui s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il a demandé pardon à Dieu de tout son cœur. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Le Seigneur ne veut pas les sacrifices. Il veut un esprit contrit et humble. Ici aussi, il est écrit. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Cet homme, donc j'ai pensé ça hier. Il a fait toutes les choses les pires qu'un homme aurait pu faire. Mais Dieu l'aimait. Parce que dans son cœur, il avait vraiment l'amour envers Dieu et son peuple. Un homme juste. Quand je lis Samuel, l'histoire de Samuel, à part les choses qui sont méprisables, c'est un homme. C'est un exemple pour nous tous. Et même au travail. C'est difficile à dire. Parfois, j'ai toujours dit, quand quelqu'un est un chef, je voulais lire cela. Je vais d'abord lire cela. C'est une chose à laquelle je pense souvent. Un Samuel 18. Verset 14. Et David était sage dans toutes ses voies, et l'Éternel était avec lui. Et Saoul vit qu'il était très sage, et il le craignit. Et tout Israël et Juda aimaient David, car il sortait et entrait devant eux. Donc c'est un homme qui était toujours en première ligne. Chaque fois qu'il y avait une bataille, il était toujours là, en première ligne. Et Israël l'aimait. Mais au travail, c'est pas comme ça. Toi, tu veux faire les choses justes. Alors là, disons, les autres ouvriers qui sont là, qui sont sous moi, ils disent que moi, je les fais trop travailler. Si tu veux être juste, mais eux disent, mais oui, parce que tu es du patron, toi, parce que tu fais trop travailler. Et ils disent que je ne veux pas faire tout le travail qu'ils doivent faire. Si on veut faire la justice dans ce monde, c'est pas reconnu. Mais là, David était un homme qui allait et venait à leur tête. Un homme sage. Et quand il fallait faire les choses, c'était d'abord lui qui les faisait. Et ensuite, je voulais lire encore. quelque chose que j'avais déjà dit auparavant à propos de David. Donc je voulais lire le verset 24. Pardon, chapitre 24, 1 Samuel 24, verset 5. 1 Samuel 24, verset 5. Nous savons donc Franco aura plus une école dominicale, une école du dimanche, pardon. Donc c'est parler de David, un homme juste, malgré tout ce qu'il avait fait. Mais on lit cela, 1 Samuel 24, verset 5. Et les hommes de David lui dirent, voici le jour dont l'Éternel t'a dit, voici je livre ton ennemi en ta main, et tu le feras comme il en sera bon à tes yeux. C'est pour dire qu'on sait tout cela, c'est que Saoul chassait vraiment pour chasser. Il voulait tuer David. Et je crois au moins deux fois, il est arrivé au point que Saoul était vraiment entre les mains de David. Et David pouvait lui faire ce qu'il voulait. Parce qu'il avait eu deux fois dans une grotte. Et David, donc Saoul était là, et vous connaissez les fêtes, et David pouvait même l'avoir avec ses hommes. Mais David avait même repris, corrigé les soldats qui devaient faire monter la garde pour Saoul. Donc je relis ici 1 Samuel 24, 5. Et les hommes de David lui dirent, voici le jour dont l'Éternel t'a dit, voici je livre ton ennemi en ta main, et tu lui feras comme il sera bon à tes yeux. Et David se leva et coupa secrètement le pan de la robe de Saoul. Et il arriva après cela que le cœur de David le reprit de ce qu'il avait coupé le pan de la robe de Saoul. Et il dit à ses hommes, « Loin de moi, de par l'Éternel, que je fasse une telle chose à mon Seigneur, à loin de l'Éternel, que d'étendre ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Ceci aussi, je voulais faire ressortir cela, c'est que Saoul avait été loin comme roi d'Israël. Et puis on sait que son règne lui a été ôté à cause de la chose qu'il avait faite. Et David a été consacré ensuite, toujours par Samuel, comme roi d'Israël. Ainsi, ici, David aurait eu tout le droit, disons, de faire à Saoul ce que Saoul avait voulu faire à David. Mais ici, Saoul dit, comme il savait qu'il avait été loin malgré le fait que Dieu l'avait ensuite rejeté, que Dieu me garde, que je fasse une telle chose à mon Seigneur, à loin de l'Éternel, que d'étendre ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ce matin, je disais, donc si je trouve le verset, Jean 2, 20. Toujours un exemple de ces hommes qui ont le cœur. Ils sont des hommes selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, rapportés à ce siècle-ci, parce que je crois que vraiment, que s'il y avait cet esprit, cette justice, cette humilité, d'être vraiment une personne humble, il devrait y avoir ce sentiment. David a dit, non, moi je ne vais pas mettre les mains sur loin de Dieu. Donc David fuyait même de Saoul, et du peuple d'Israël, sinon il l'aurait tué. Sinon, donc il aurait fini comme l'homme qui a été tué par David. Donc 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 18. Je pense aussi que Frère Franck aurait dit ça dernièrement. 1 Jean chapitre 2. Verset 18. Franco aussi avait lu ce verset récemment. Donc je répète, David, quand il avait la possibilité de se venger et de mettre fin à ses malheurs, disons, de mettre fin même au fait que sa vie était mise en péril. Donc lui, il n'a pas fait, mais Saul aurait pu le tuer, lui. Mais David a dit, non, moi je ne veux pas le faire. Je ne mettrai jamais mes mains sur la voix de Dieu. Et là, il est écrit. Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est comme, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi, il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'entre des nôtres. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Il est écrit, « Quant à vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint. » Et vous connaissez toutes choses. Et David a dit, je ne mettrai jamais les mains sur loin de Dieu. Et là aussi, Jean nous atteste ici, que vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint. Nous aussi, nous sommes loin du Seigneur. Nous aussi, nous ne pouvons pas parler mal de loin du Seigneur. Donc c'est quelque chose, on devrait avoir les mêmes sentiments ici que David, d'aimer l'homme parce qu'il savait que c'est loin du Seigneur, même si il savait qu'il avait été rejeté et qui même avait été loin par Samuel, lui aussi. Il aurait pu. Il aurait pu être poussé par les autres. Et la première fois, tu as dit que c'est loin du Seigneur. Et maintenant, c'est la deuxième fois que tu te mets devant toi. Et toi, tu lui laisses encore la vie comme ça. Tu l'as gracié une première fois. Il a continué à te faire l'achat, à te chasser, à te poursuivre pour t'ôter la vie. Et maintenant que Dieu te met à ta portée, une deuxième fois, et nous savons qu'au moins deux fois, je ne vais pas le faire. Ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Malgré ce qu'il a fait, quand je lis sur David, je le répète encore, aujourd'hui, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, sachant ce que David avait fait, si on le rapporterait dans nos jours, donc je ne vais pas donner des noms, mais disons un homme de Dieu qui aurait fait des choses, qui aurait fait toutes ces choses-là, qui aurait été avec la femme d'un autre, etc. Nous, on l'aurait fait mourir. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on dit, il est condamné. Je m'en sépare. Mais on a ici un exemple, et nous savons l'exemple, Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, on l'a déjà entendu, que j'ai déjà entendu, qui parfois s'excusent avec cela, du fait que de ce que David a fait, et alors eux font ce qu'ils veulent. Mais c'est Dieu qui juge l'homme. C'est Dieu, il a donné Jésus-Christ pour nous. que chacun d'entre nous puisse avoir ce sentiment qui est en David, mais encore plus en Jésus-Christ, et d'avoir ce respect l'un envers l'autre. Mais vraiment que Dieu nous aide à ne pas être juge de nous-mêmes. Parce que si je juge mon frère, je me juge moi-même. Donc je le dis d'abord pour moi vraiment, parce que je me connais. Que notre langue puisse être vraiment loin du Seigneur. Et avant de dire quelque chose contre un frère, ça je n'y avais pas pensé, mais ce que le Seigneur a fait avec David, je crois que c'est très important et fort. Donc je répète, il s'est sali des pires choses qu'on peut trouver. Mais il est écrit qu'il ne s'est écarté en rien de la parole de Dieu, si ce n'est de la faire du riz. Si Dieu a aimé un homme comme ça, il aime aussi moi et mon frère. Donc l'amour de Dieu, si mon frère est témoin, moi je ne dois pas lui faire du mal, ou dire, ou faire rien contre mon frère. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel, c'est vraiment complètement surligné. Un autre verset maintenant que je lis dans 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. C'est toujours pour faire ressortir la sagesse et l'humilité de cet homme, afin qu'il soit mon exemple. 1 Samuel 22. À partir du verset 22. Et David dit à Abiathar. Abiathar, c'était un fils du sacerdoce Ahimelech. L'unique fils qui était resté en vie après que David s'était fait donner par Ahimelech des pains parce qu'il avait faim. Donc voici. Après qu'Amélec l'a donné à David, Saoul a exterminé la famille et est resté en vie seulement cet homme Abiathar, fils d'Ahimelech. Donc il y a un des fils d'Ahimelech, fils d'Akitoub, dont le nom était Abiathar, se sauva et s'enfuit après David. Et Abiathar rapporta à David que Saoul avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Et David dit à Abiathar, je le savais ce jour-là, lorsque Doeg, l'Édomite, était là, qu'il ne manquerait pas de le rapporter à Saoul. Donc un serviteur de Saoul. Donc ça devait être comme ça. Ce jour-là. Verset 22. Je le savais ce jour-là, lorsque Doeg l'Édomite était là, qu'il ne manquerait pas de le rapporter à Saoul. Et David dit, moi, je suis cause de la mort de tous ceux de la maison de ton père. Demeure avec moi, ne crains point, car celui qui cherche ma vie cherche ta vie, et près de moi tu seras bien gardé. Donc il était responsable de la mort de tous ces gens. Mais je répète, un homme selon le cœur de Dieu. En lisant cela, j'ai pensé à Adam. Oh, mais tu m'as mis une femme là. La faute, c'est pas moi, c'est sa faute à elle. Et encore mieux. Ouais, la faute, c'est à toi, parce que c'est toi qui as mis la femme ici, qui m'a tenté. Donc, il se déchargeait des fautes. Mais ici, Mais si, David, même on l'a lu, moi je suis cause de la mort de tous ceux de la maison. Un homme humble qui ne se retire pas en arrière devant ses fautes, comme on le fait souvent nous. Souvent on dit, ah, mais je l'ai fait parce que c'est ta faute. Mais là, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Que chacun d'entre nous puisse avoir ce cœur qu'avait David, mais encore plus qu'avait Jésus-Christ. Et ensuite, je voulais lire il y avait un verset ici. Nous voyons voir lequel. J'espère le retrouver parce que c'était quelque chose. Voilà, c'est dans Michée. Michée. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Après Jonas. Michée chapitre 6. Même ici. Quand je disais que je me suis trouvé mes réponses, c'est aussi dans Michée chapitre 6. À partir du verset 6. Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Il t'a déclaré, homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu? Ici, j'ai pu voir encore une fois David. Lui est Seigneur de toutes choses. Tout le mouton, tous les. Tout, lui, toute chose est à lui. Et il dit, homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait connaître ce qui est bon, ce qui est bien. Il nous a fait connaître ce qui est bon. Ce que tu fasses, ce qui est droit, que tu pratiques la justice, que tu marches la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Encore une fois, encore dans 1 Samuel. 1 Samuel. Ça peut être. Donc je crois que c'est le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre. Donc 1 Samuel 30. Ça, je l'avais déjà lu ici à l'Assemblée. 1 Samuel 30. Là aussi, David rentre d'une bataille. Et ces hommes sont fatigués. Et ceux qui étaient le plus fatigués, verset 10, verset 10, 30, 1 Samuel 30, 10. Et David Et 400 hommes firent la poursuite, et 200 hommes s'arrêtèrent, qui étaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils devaient aller libérer les femmes qui avaient été capturées. Alors David est retourné à la bataille, il a vu que il s'était passé toutes ces choses-là, qu'ils avaient fait un rapt, et il voulait donc les délivrer, et il a laissé 200 hommes qui étaient trop fatigués. Et au verset 21, et David vint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et qu'on avait fait rester auprès du torrent du Bessor. Et ils sortirent à la rencontre de David. Et à la rencontre du peuple qui était resté avec lui. Et David s'approcha du peuple et les interrogea touchant leur bien-être. Pensez à cela. Une bataille où on risque sa vie. Et lui s'informe de leur bien-être. Comment vous allez? Ceux qui étaient là, restez tranquilles. Et tout homme méchant et inique d'entre les hommes qui étaient allés avec David répondit, dit, parfois nous aussi, hein, on dit, ah nous on a fait ça, nous, même Jésus a dit la parabole du serviteur de la dernière heure, et les autres disent, nous on a travaillé plus, et tu nous donnes la même somme d'argent. Mais ici aussi, David dit, enfin les gens disent, les méchants disent, donc d'autres les hommes qui étaient allés avec David répondirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons pas du butin que nous avons recouvré, sauf à chacun sa femme et ses enfants, et qu'ils les emmènent et s'en aillent. Mais David dit, vous ne ferez pas ainsi, mes frères, avec ce que nous a donné l'Éternel, qui nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écoutera dans cette affaire? Car tel... Donc, j'ai envie de dire que... Disons, on va dire comme ça. On va dire, il y a Frère Franck qui va prêcher la parole, par exemple, Frère Franck. Et nous qui sommes ici, qui voulons servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, qu'on est en train de garder les bagages, disons. Car telle qu'est la part de celui qui descend à la bataille, telle sera la part de celui qui demeure auprès du bagage. Ils partageront ensemble. Et il en fut ainsi depuis ce jour-là et dans la suite. Et l'on établit, comme statut et comme ordonnance en Israël jusqu'à ce jour. Parce que hier, quand je lisais cela, dans Domiché, la justice. Le Seigneur ne demande pas autre chose de nous que nous pratiquions la justice. La justice, c'est ça que faisait David. La justice, les choses droites. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir, et dans mon lit, je pensais aussi à ça. Et je me souviens d'un fait, d'une histoire. C'est quelque chose, je peux dire, de fort. Dans le sens que, quand je donne cet exemple, quand j'avais fait une demande pour Andrea Daniel, pour si. Pour le travail, je crois. Et quand je voyais entrer quelqu'un, il y avait en moi un sentiment qui n'était pas juste. Et je me souviens qu'un jour, ma femme a dit un jour, il y a un jeune que je connais, il habite là toujours dans la zone, et ma femme, ce garçon-là, son papa est mort, la maman ne travaille pas, et lui, peut-être ses frères et ses soeurs ne travaillent pas. Et là, je me suis dit, alors c'est quoi la justice? Si moi, mon fils, qui ne travaille pas, et moi je peux prendre soin de lui, et il y a un autre qui a plus besoin de moi, c'est quoi le choix que je dois faire? Si je devais faire, si j'avais le choix, quel choix? Étant donné que je pense d'abord à mon fils, voilà pourquoi il y a des versets qui... J'avais marqué ici où il était écrit, pensez d'abord à la maison de Dieu, la maison des croyants. Mais un autre verset qui dit qu'ici, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alors c'est quoi la justice? La justice c'est quoi vraiment? Que moi je fasse la chose juste. Et s'il y a une famille qui meurt de feu, pour, disons, pour faire un drame, et que mon fils est bien, donc c'est juste de donner le travail. Est-ce que c'est juste de donner le travail à mon fils ou plutôt à l'autre qui meurt de faim? Ça, ce sont des questions que je vais me poser la question. Je crois que c'est ça la justice. Donc je crois que c'est la pensée de Jésus-Christ. Il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Et il est écrit que tu aimes la miséricorde. Ça aussi la miséricorde. C'est d'avoir vraiment cette pensée envers celui qui a besoin de miséricorde. Nous tous. Parce que sinon, notre Seigneur ne serait pas venu. Et qu'il marche humblement, que tu marches humblement devant ton Dieu. David est un homme qui marche humblement devant son Dieu. Et autant plus le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ainsi, moi, je crois que vraiment, ce que j'ai lu encore hier soir, quand je lisais sur David, l'homme qui a envoyé à l'abattoir un des hommes les plus valeureux qu'il avait. Parce qu'il y avait ici toute une liste des hommes les plus valeureux de David, dignes d'être mis à mort. Comment est-ce qu'on l'aurait jugé maintenant? Mais je me serais trompé. Parce que Dieu, un homme qui a fait toutes ces choses-là, il le regarde quand même. Il ne le regarde pas comme nous on le regarderait, mais il le regarde comme un Dieu miséricordieux, qui comprend, qui sait ce que nous sommes et qu'on ne peut rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment, chacun d'entre nous puisse se rendre compte de cela, que nous sommes, comme on l'a lu dans Jude, qu'on est aimé du Seigneur, de notre Dieu, et gardé par Jésus-Christ, chacun d'entre nous. Ainsi, dans nos cœurs, il doit y avoir simplement la prière, l'un envers l'autre. Nous tous, on a besoin, nous tous, de la prière. Il faut en arriver au point où on puisse traverser le Jourdain, comme Frère John Franco dit, et on a besoin de prière, l'un envers l'autre, parce que je crois que là aussi David ne pouvait pas aller libérer le peuple, toutes ces femmes-là, tous ces gens qui avaient été volé. Donc il avait besoin de toute son armée. Une partie était fatiguée, mais l'autre partie comme une partie. Ainsi je crois que ça doit être comme ça pour chacun d'entre nous. Il faut être, la parole grande, au service de Dieu, au service de Jésus-Christ. Apprendre de lui, qui est doux et humble, et avoir le même sentiment qu'il avait en allant sur la croix. Et je répète, et je répète souvent, vous avez compris ce que j'ai fait. Et si moi je l'ai fait pour vous, Jésus a dit, à plus forte raison, vous faites-le les uns pour les autres. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vraiment nous aide à être comme lui veut que nous soyons. Parce qu'en nous, il ne peut pas y avoir vraiment ce sentiment qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ pour nous en allant sur la croix. Ce sont des paroles fortes, mais chacun d'entre nous, je crois, qui doit les peser et chercher à se laisser transformer par la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, comme je l'ai lu hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, dans cette page du calendrier qu'on lit, que Il faut être assidu dans la lecture de la parole qui transforme nos cœurs. Sinon, on se laisse entraîner par nos propres pensées. Et puis, quand on sera dans les pieds dans l'eau, quand on sera avec les pieds dans l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut alors attendre la parole. Je le répète, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et Dieu nous guidera de ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi souvent, on pense, on voit des difficultés. Et alors, on laisse aller les choses. Mais le Seigneur veut. Je suis en train de penser à ça. La semaine passée, on parlait du travail de Samuel. Je le voyais un peu préoccupé. Mais moi, je pensais. Parce que je le vois vraiment. Donc, c'est un jeune homme, un fils de Dieu. Je crois que si Dieu a permis cela, qu'il vienne ici, Dieu a un plan. Et certainement, nous ne le connaissons pas, mais nous savons que Dieu prendra soin de chaque chose. Et on dit souvent que sa volonté se fasse et non la nôtre. Alors attendons avec calme et faisons toujours ce qui est juste de faire. Parce que nous ne sommes pas appelés à attendre qu'il arrive n'importe quoi. Mais nous devons faire cette partie-là, nous aussi. Nous aussi, dans le chemin avec le Seigneur, nous devons faire notre part. Il faut être des personnes qui sont fermes. Et il ne faut pas être des gens à ne rien faire plutôt. Chacun d'entre nous a une tâche à faire. Et que Dieu vraiment puisse nous révéler et manifester tout ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Ce que je demande à Dieu, c'est que nos pensées et nos actions qui soient toujours conformes à sa parole. Et même sur le lieu du travail, tout ce qui se passe. Je dis, Seigneur, pourquoi? Souvent, on demande au Seigneur la sagesse, la protection, et puis il y a des choses qui se passent. Mais je crois aussi que l'ennemi fait des choses afin que nous puissions voir quand nous sommes avec les pieds dans l'eau, si on va dans la panique, comment on réagit, ou si on croit au Seigneur qui va nous sortir de toute situation qui semble méchante et les transformera toujours. Afin que nous puissions donner gloire à lui. Ça, disait Frère Gianfranco. Simplement cela. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il augmente notre foi et qu'il nous aide à être un exemple continuel. À avoir cet exemple de Jésus-Christ et tous les autres hommes de Dieu qui ont servi son assemblée. Je crois que c'est ça, un service que Dieu a offert pour nous. Lui est venu pour nous servir. À plus forte raison, nous devons nous servir les uns les autres. Que Dieu nous donne vraiment cet esprit d'humilité et de service. Avant tout, à moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gianfranco. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, David. Était vraiment un des personnages. Je voudrais dire un frère. Je voudrais dire, voilà le mot, un frère. Dont on puisse vraiment prendre exemple. Parce que avoir un cœur selon Dieu, certainement, ça veut dire surtout être humble et doux avec l'humilité. Et c'est l'humilité maintenant qui manque, maintenant. Même, on ne peut même plus la trouver, cette humilité. On ne peut même plus trouver en dessous des tapis, d'après le monde. Mais les frères, par la grâce de Dieu, cette humilité, il y a encore. Parce que maintenant, tu ne peux plus rien dire en personne, que directement, il commence à s'énerver. Donc, tout le monde est dans l'erreur, mais il n'y a plus personne qui se trompe. Tout le monde. Mais par contre, parmi les croyants, il y a ça. Donc, le frère lisait cela. Ça m'est venu à l'esprit. Je le lis tout seul, rapidement, dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Et il n'y a rien, aucune loi contre ces choses. Mais le David aurait pu être, si ça avait été simplement humain, supérieur, si on veut ces choses-là. Mais là, au contraire, il avait ce respect, il avait quelque chose en lui que Dieu lui avait mis à travers son esprit. Donc, il avait un cœur donné par Dieu. Et je crois que vraiment ces choses-là, si ça se trouve en nous, comme il est écrit dans la première épître de Jean, à la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 7, très cher, bien-aimé, aimons-nous car amour de Dieu, et quiconque aime et aime Dieu et est né de Dieu. Nous exerçons, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour est de Dieu. Et le verset après, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et en cela se manifeste l'amour de Dieu envers nous, que Dieu a envoyé son Fils unique. Mais moi, je me pose la question, y a-t-il besoin d'être exhorté à aimer si vraiment on a l'amour de Dieu en nous? Non. Il n'y a pas besoin à être exhorté, à être forcé. D'un côté, oui, parce que, comme je disais aujourd'hui, tu ne peux plus. Donc tu te fatigues à donner l'amour que tu as en toi. Mais entre nous, il ne doit pas y avoir la nécessité, parce que si j'aime, j'aime. C'est ma nature. C'est comme si on disait à une brebis, rappelle-toi, tu dois faire la laine. Non, c'est pas besoin. Comme il est écrit ici, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Et si nous, on a connu Dieu, Dieu est amour, et nous, et en nous, doit y avoir spontanément cette volonté, ce désir de voir dans notre vie le cœur selon Dieu. Même nos ennemis, de ne pas toucher l'oreille du Seigneur. Combien de fois on entend des gens qui disent, chez les frères, « Ah, il a fait ça, il a fait ça. » On est en train de toucher l'oreille du Seigneur. Donc vraiment, les enseignements que Dieu nous donne à travers David, qui nous a précédés, celui qui nous a précédés, ce sont des exemples vraiment précieux. Et moi, je crois que dans ces derniers temps, en chacun d'entre nous, il doit y avoir cette perfection, le perfectionnement. Où il y a toutes ces choses. L'amour, c'est aussi, ça doit aussi coller avec les défauts, les faiblesses, etc. Donc il faut que ça couvre. Si par exemple on est à la maison, je parle de ma maison, si je vois ma femme qui fait quelque chose de faux, mais si je ne le vois pas, donc si elle ne le voit pas, je prie le Seigneur afin qu'il touche son cœur. Je souffre parce qu'elle n'est pas encore de la parfaite volonté de Dieu, comme un frère, comme une sœur. Mais si ce n'est pas un péché, ben, bien sûr, je prie la prière. Et combien David pouvait souffrir en voyant des gens qui voulaient le tuer, le ouin qui voulait le tuer, Saoul. Il y avait cette humilité que même si lui était le roi, il le gardait pour lui jusqu'à ce que Dieu le manifeste. Donc c'est glorieux, vraiment glorieux ce que le Seigneur fait. Et c'est encore plus glorieux le fait qu'il nous le fait sentir. Il nous fait sentir que cette chose, c'est pour nous, c'est en nous. Et qu'il nous donne vraiment la possibilité d'être vraiment des témoins. qui laissons sortir ces fleuves d'eau vive de nos cœurs. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, vraiment, merci. Merci car tu as parlé encore aujourd'hui à nos cœurs. Encore toi, tu as marché au milieu de nous et tu continues à le faire, nous le savons. Que tu puisses prendre soin de ton peuple. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci vraiment. Nous n'avons pas de parole, mais tu vois la profondeur de nos cœurs. Oh Seigneur. Que ce soit les remerciements, les requêtes. Certainement, chacun d'entre nous a des requêtes, Seigneur. Pour des enfants, pour soi-même, pour la famille, pour le salut, quelque chose matériel ou spirituel. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Et c'est un privilège de pouvoir être devant toi, de pouvoir faire toutes ces choses. Et vraiment, nous te remercions, Seigneur, nous te prions. Et comme il a été dit, tu fais la même chose avec les frères qui ne sont pas au milieu de nous, avec les frères qui sont en ligne, en Belgique. Vraiment, Seigneur, bénis-les aussi, Seigneur. Nous te remercions de nous donner aussi cette possibilité. Que tu puisses bénir aussi si, tous ceux qui écouteront cette prédication, qu'ils puissent recevoir aussi les bénédictions. Ainsi, Seigneur, bénis encore le frère Franco qui est en voyage, que tu puisses l'accompagner et que ta parole et tes anges soient avec lui, afin que tu puisses le ramener parmi nous en pleine santé. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions aussi pour tes serviteurs, pour ce que tu as envoyé dans la moisson, pour récolter encore le grain qui mature. Merci encore pour le frère Van Franck. Puisses-tu le bénir et le garder en forme, dans la solidité. Merci encore de bénir ton saint peuple d'Israël. Nous voulons prier pour eux, car il est aussi écrit cela. Car nous savons qu'ils font partie de quelque chose qui nous touche. Parce que vraiment ce peuple est parti de ton plan. Merci encore une fois. Nous voulons te prier pour le travail, pour Samuel. Tu connais toutes choses et toute nécessité. Mais nous savons que tu es celui qui prend soin de chaque chose. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, et que tu puisses toi-même étendre ton bras sur chacun d'entre nous dans les heures et jours à venir. Parce que si cette chose, nous avons la possibilité de te le demander en ton saint et précieux nom, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Vous pouvez aussi prier.